Je ne sais pas ce que la musique peut faire, mais on va essayer. C'est ce qu'a déclaré le musicien de jazz Sonny Rollins lors d'un concert quelques jours après les attentats qui ont frappé les États-Unis il y a 20 ans. Aujourd'hui, Pop & Co retrace l'histoire de la bande-son du 11 septembre 2001 parce que depuis cette date et depuis celle du 13 novembre 2015, nos oreilles ont changé. Nous n'écoutons plus les chansons de la même façon, elles se sont lestées dans notre sens. Alors comment la musique agit après la violence ? On va répondre à cette question avec un musicien, c'est Gaëtan Roussel, et avec Jean-Marie Potier, un journaliste indépendant qui a signé un essai paru en 2016 aux éditions Le Mot et le Reste. Ground Zero, une histoire musicale du 11 septembre, c'est le titre. Et Tassous Me, c'est celui de la chanson dans laquelle je vous ferai entrer un peu avant midi. Celle qui en est l'interprète et l'autrice s'appelle Yeli Yeli. Tassous Me, ça veut dire le silence en kabyle. Et le morceau de Yeli Yeli contient ce proverbe, le silence embellit la bouche. Bonjour, bienvenue, c'est Pop & Co.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
C'est parti de cette question d'enfant. Comment c'était avant ? Avant quoi ? Avant notre siècle, le 21e, qui a commencé le 11 septembre 2001. Face à l'ordi, j'ai tapé World Trade Center, musique, une date au hasard, 1990, et... Je suis tombée sur Champs-Élysées, l'émission de variété de Michel Drucker. C'était le 24 mars 1990, et ce soir-là, il y avait des buildings, des taxis jaunes et des hommes pressés dans la télé. Une carte postale de New York en trois plans, et Drucker en contre-plongée.
Bonsoir, ici New York, sous un soleil d'été. Une des deux tours jumelles, World Trade Center, celle où nous tournons maintenant, est la plus haute. 400 mètres de haut, 50 000 personnes travaillent au World Trade Center, et sur le toit du monde, le groupe Depeche Mode.
Les images qui suivent, ce n'est pas moi qui vais vous les décrire, mais Jean-Marie Potier. Jean-Marie Potier est donc l'auteur de Ground Zero, une histoire musicale du 11 septembre, paru aux éditions Le Mot et le Reste.
On voit les quatre membres du groupe avec leurs synthétiseurs, leurs guitares, leurs micros, vraiment campés au sommet de la tour, et puis avec en plus derrière eux ce ciel très très bleu, qui est le même ciel qu'on a tous vu le 11 septembre quand les avions sont rentrés dans les tours, là, qui était une espèce de ciel de fin d'été très beau. Et ce qui est assez extraordinaire dans ce clip, c'est qu'on a l'impression en fait de voir le vestige d'une civilisation disparue, puisque les tours se sont effondrées, alors que c'est très près de nous, c'est les années 90, qu'à l'époque, eux étaient en train de chanter au sommet de ce qui était un des symboles de la puissance américaine, quelque chose qui paraissait totalement invulnérable, enfin fait pour durer toujours, et qui s'est reproduit par la suite, puisque d'autres groupes de rock ou de hip-hop sont venus jouer, pareil, des clips au sommet du World Trade Center.
Et après, 11 ans plus tard, CNN, le 11 septembre 2001, un peu après 9h.
These extraordinary events this morning here in New York.
Le silence sur une chaîne d'information continue.
There are no words.
Il n'y a pas de mots.
Voilà, tout de suite, c'est le silence qui s'impose et il semble impossible d'écouter de la musique et encore moins de la musique populaire, de la musique légère, gaie.
Alors comment la musique va reprendre sa place ?
La musique va reprendre sa place, alors dans un premier temps, dans un sens très pieux, tout simplement un sens de commémoration, c'est-à-dire ce qui prend place le plus vite, ce sont les chants patriotiques. C'est God Bless America, par exemple, c'est évidemment l'hymne national, The Star Spangled Banner. Donc elle reprend d'abord sur un ton très solennel, un ton de recueillement et d'union nationale.
Et le premier chant qui s'est imposé, c'est God Bless America, composé par Irving Berlin en 1918. Avec ce morceau, Berlin, d'origine russe et de confession juive, célèbre une Amérique qui a su accueillir sa famille après qu'elle a fui les pogroms. Le 11 septembre 2001, à 19h45, les membres du Congrès réunis sur les marches du Capitole entonnent cette chanson, écrite par un émigré qui rend hommage à l'Amérique.
From the mountains to the prairies, to the ocean, God bless America.
ça c'est la première, on va dire, manifestation extrêmement symbolique. Et la deuxième, c'est le God Bless America, c'est un classique des manifestations sportives, des rencontres de baseball de, notamment. Et il a été extrêmement chanté dans ces rencontres sportives les semaines qui ont suivi, notamment par un policier de New York qui a décroché un contrat discographique qui s'appelle Daniel Rodriguez, qui était surnommé le policier chantant, et qui a décroché un contrat de ténor grâce à son interprétation régulière de God Bless America.
God bless America. Land that I love, stand beside her and guide her through the night with a light from above.
Ça a du sens évidemment au sens voilà, que Dieu bénisse l'Amérique, que Dieu en quelque sorte protège l'Amérique, et ça avait évidemment beaucoup de sens à ce moment-là du 11 septembre puisque les policiers avaient fait partie avec les pompiers des personnels en première ligne le jour de l'attentat pour protéger les populations.
Extrait de 11 septembre, l'enquête, remarquable podcast disponible sur le site de France Inter, signé du journaliste Grégory Philips.
Ce 11 septembre, 343 pompiers ont perdu la vie, certains sous le commandement de Joe Pfeiffer.
One of the firefighters that I sent up was my brother Kevin.
Un des pompiers que j'ai envoyé dans la tour était mon frère Kevin. Quand les pompiers ont entendu mon ordre d'évacuer, et alors qu'ils descendaient, ils ont continué à faire leur métier. Alors qu'ils descendaient, ils ont vu une femme qui ne pouvait plus marcher. Et ils l'ont aidée. Ça a ralenti notre évacuation et l'immeuble s'est effondré. Et cette femme, Joséphine Harris, elle a pu s'en sortir. Vous vous rendez compte? Un groupe de gens qui s'occupent d'autres personnes et leur sauvent la vie. Mon frère ne s'en est pas sorti. Mais comme beaucoup d'autres, il est ce que j'appelle un héros ordinaire.
Le héros ordinaire, cet homme qui sait se transcender dans des circonstances exceptionnelles, est l'une des figures classiques de la culture populaire américaine, notamment au cinéma. Après le 11 septembre, le héros ordinaire va s'imposer dans les textes des chansons, dont une, signée Neil Young, et qui s'intitule Let's Roll.
Let's Roll, l'histoire, c'est que quelques jours après les attentats, la presse américaine raconte les dernières minutes du vol 93, donc le vol United 93, qui va s'écraser en Pennsylvanie.
Au lieu de s'écraser,
on ne savait pas. Alors, certains ont dit que c'était la Maison Blanche, d'autres ont dit que c'était le Capitole. En tout cas, sans doute, effectivement, une cible à Washington. Et donc, les occupants de l'avion ont tenté de reprendre le contrôle. Et les pirates de l'air ont décidé de l'écraser dans un champ et donc de tuer tous les occupants. Mais donc, il n'y a eu aucune autre victime en dehors. Et quelques jours après, on apprend grâce aux enregistrements de la cabine de bord que les passagers ont tenté de reprendre le contrôle, et donc notamment qu'un d'entre eux, Todd Beamer, qui va devenir justement très vite une figure de héros national, a lancé à ses camarades « Let's roll », voilà, on y va les gars, on tente. Et que voilà, malheureusement ça a échoué. Et il va devenir très vite une figure vraiment sacrificielle, très importante. Sa femme paraît dans les médias pour raconter sa vie, son existence, sa femme enceinte en plus. Donc voilà, il y a toute une mystique quand même autour de cette personne. Et Neil Young qui voit ça se dit, bah, j'ai envie d'écrire là-dessus, mais en même temps, peut-être que dans 6 mois, il y aura 50 chansons qui s'appelleront Let's Roll. Voilà, mais il se lance quand même et il écrit ce morceau. Alors qui par ailleurs va être assez vite discuté, y compris chez ses fans, parce que les paroles sont un peu lourdes, un peu épaisses, et il dit, mon souvenir, let's roll on the wings of a dove, donc envolons-nous sur les ailes d'une colombe, voilà, symbolique assez lourde. Mais en tout cas, le morceau aura pas mal de succès et est resté comme un symbole de cet hommage au héros.
I know I said I love you, I know you know it's true, I got to put the phone down and do what we gotta do. One standing in the highway, two more at the door. We got to get inside there before they kill some more. Time's running out. Let's roll. Time's running out.
what's wrong.
Neil Young a chanté cette chanson en direct à la télévision américaine le 21 septembre 2001 à l'occasion du Tribute Concert to Heroes, un concert destiné à collecter des fonds pour les familles des victimes. Et l'un des autres morceaux que télé et radio diffusent quelques jours après les attentats, c'est celui-ci. Hero, interprété par Enrique Iglesias. Cette chanson est donc une bluette adolescente qui raconte le désir d'un garçon, il veut devenir un héros, mais aux yeux d'une jeune fille. Donc rien à voir avec le 11 septembre. Jean-Marie Potier.
C'est là qu'on voit ce qui est intéressant dans ce genre de circonstances historiques. C'est pour moi, enfin, les circonstances historiques comme ça, ça devient un peu des aspirateurs à culture pop. C'est-à-dire elles attirent à elles plein de chansons et leur donnent une toute nouvelle signification qu'elles n'avaient pas auparavant. Donc là, en l'occurrence, il y a des programmateurs qui ont vu qu'il y avait un morceau signé Enrique Iglesias, qui en plus était une balade assez douce, qui s'appelle Hero, qui était en tête, qui marchait dans les parades, et qui se sont dit, bon, on va l'inviter pour des cérémonies commémoratives pour les victimes, à la télévision, et il est venu interpréter ce morceau, et d'un coup, ce morceau a acquis une signification tout à fait nouvelle.
Le fait que les événements chargent une chanson d'un autre sens, il y a eu une forme de censure, c'est-à-dire on a dit, attention là, on diffuse plus certaines chansons. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
Alors ce qui s'est passé, c'est que donc le 11 septembre, des programmateurs de radio ont commencé à échanger entre eux, par email, à se dire, voilà, moi je vais arrêter de passer tel morceau, tel morceau, tel morceau, parce que ça paraîtrait inapproprié. Et que très vite, en fait, dans ces échanges entre programmateurs radio qui appartenaient à un même groupe, un gigantesque conglomérat qui s'appelle Clear Channel, qui possède des milliers de stations aux États-Unis, a commencé à se constituer une sorte de liste. Et alors, bon, très vite, l'histoire a un peu été exagérée. On a dit, c'est la liste des chansons censurées, alors qu'en fait, ça relevait plutôt quand même à la base de l'initiative individuelle de programmateurs. Mais donc, leur idée, c'était, il faut qu'on expurge nos antennes de tout ce qui peut rappeler aux auditeurs les attentats, y compris évidemment des chansons qui n'ont aucun rapport avec le terrorisme ou avec ce genre de choses.
Et voici un premier exemple d'une chanson interdite d'antenne. Great Balls of Fire de Jerry Lee Lewis.
Interdit d'antenne parce que la grosse boule de feu, ça faisait songer à celle qui s'était produite dans les tours du World Trade Center quand les avions les avaient percutés.
Et ça ? The Bangles. Avec Walk Like an Egyptian.
Walk Like an Egyptian.
Interdite d'antenne aussi.
Parce que ça faisait allusion à un pays du Moyen-Orient et qu'on était en plein débat sur d'où venaient les terroristes. Par exemple, un des terroristes du 11 septembre, celui qui a écrasé le premier vol sur la première tour, Mohamed Atta, venait d'Égypte, par exemple. Voilà, c'est-à-dire que vraiment tous les critères possibles sont utilisés pour expurger l'antenne de morceaux jugés indésirables.
L'artiste qui s'est imposé quasiment comme un recours national les jours qui ont suivi le 11 septembre, c'est Bruce Springsteen.
I come from down in the valley where Mr. when you're young they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary we met in high school and she was just 17. We'd drive out of this valley down to where the fields were green.
Cette chanson The River commence par ces mots. Je viens du fond de la vallée où, quand tu es jeune, il t'élève pour que tu fasses comme ton père. Marie et moi, on s'est rencontrés au lycée quand elle avait à peine 17 ans. Nous descendions cette vallée pour aller là où les champs étaient verts.
Et un peu plus loin, Springsteen chante « Est-ce qu'un rêve qui ne se réalise pas est un mensonge ou est-ce pire encore ?» Jean-Marie Potier.
Alors Bruce Springsteen est un des héros de ce moment-là parce qu'il incarne quand même cette star de la musique proche des gens, entre guillemets, ordinaires, proche de l'américain, entre guillemets, moyen, depuis toujours, enfin depuis en tout cas le début de sa carrière. Et aussi parce que Bruce Springsteen, c'est un New Yorkais d'adoption en quelque sorte. Enfin, il vit de l'autre côté du fleuve Hudson, dans le New Jersey, qui a été aussi un endroit durement frappé par les attaques, parce que beaucoup de gens qui travaillaient dans les tours et qui sont morts dans les attentats venaient y travailler depuis New Jersey. Donc il y a eu des dizaines de morts dans la région où habitait Springsteen. Et lui a raconté notamment que le jour de l'attentat, qu'il regardait comme tout le monde à la télévision, il a éprouvé le besoin de pour vraiment y croire, de sortir de chez lui et de faire quelques kilomètres pour aller dans un des endroits où il y avait un de ses paysages favoris, voir l'horizon de New York et voir effectivement que l'horizon de New York avait été amputé des deux tours.
Extrait de Born to Run, autobiographie de Bruce Springsteen. Je suis resté assis un long moment seul. La plage était vide. Le ciel silencieux. Comme on habite sous un gros couloir aérien, on entend constamment des avions passer au-dessus de la côte. Et ce grondement sourd fait autant partie de notre paysage que le clapotis des vagues. Mais pas ce jour-là. Tout le trafic était interrompu. Et dans le silence surnaturel de cette plage, je me serais cru dans l'univers post-apocalyptique du dernier rivage. Alors que je me préparais à reprendre le volant pour me fondre dans la circulation d'Ocean Boulevard, une voiture est arrivée en trombe. Vitre baissée. Son conducteur, me reconnaissant, a hurlé « Bruce, on a besoin de toi ». Est-ce que je devais écrire ou pas sur ces événements? La question ne se posait même pas. Je l'ai fait. Point barre.
Il y avait le premier rôle des artistes dont on parlait qui était de proclamer leur patriotisme, on va dire. Mais là, il y a un autre rôle qui est tout simplement de parler pour tous les Américains de ce qu'ils ont ressenti. Et puis de se faire en quelque sorte, dans le cas de Springsteen, un peu l'écrivain public de toutes les peines des Américains, c'est-à-dire de raconter peut-être ce qu'a pu ressentir un pompier qui a tenté de sauver des gens le 11 septembre, ce qu'a pu ressentir quelqu'un qui a perdu son conjoint dans les tours. Voilà, raconter un peu ce qu'ont pu ressentir tous les Américains à des degrés divers.
Le 30 juillet 2002, mois de la fête nationale américaine, Bruce Springsteen publie l'album The Rising, qu'on peut traduire par « Renaître de ses cendres ». Une des chansons du disque porte le même titre.
Rebecca Manzoni, Pop & Co.
Et ce matin, le récit de Pop & Co, c'est l'histoire musicale du 11 septembre. Parce que les chansons ont joué un rôle, elles ont été la bande-son de l'Union Nationale, la bande-son de la célébration des héros, et l'expression d'un certain patriotisme aussi. À ce moment-là, la musique country fait un retour en force, et l'une des stars du genre qui s'impose, c'est Toby Keith. We'll put a boot in your ass, it's the American way. Dans ce morceau, Toby s'adresse à Ben Laden en lui promettant, je cite, un coup de pied au cul à la manière américaine. Présentation de Toby Keith par le journaliste Jean-Marie Potier.
Donc, Toby Keith, c'est un chanteur country qui était déjà à l'époque assez connu. Et alors, ce qui est intéressant par ailleurs, c'est qu'il chante cette chanson extrêmement patriotique immédiatement après le 11 septembre. Et donc, il en a fait un disque qui est devenu le numéro 1 des charts un an après, le 4 juillet 2002, donc au moment de la fête nationale qui a suivi les attentats.
Après coup aussi, Toby Keith est devenu même militant politique.
Voilà, donc Toby Keith notamment fait partie des artistes, alors ils étaient peu nombreux parce que ça avait été compliqué d'en trouver, qui se sont produits pour Donald Trump, donc le 20 janvier 2017, lors de son entrée en fonction comme président des États-Unis.
Et puis, Il y a ceux qui ont dit non. Non au patriotisme belliciste qui célèbre l'armée et les forces de police sans distinction. Non, ce sont beaucoup les rappeurs qui l'ont dit.
Notamment en disant, nous les Afro-Américains, nous sommes au quotidien victimes de vexations policières, de brutalité, parfois pire. Pourquoi est-ce qu'on devrait d'un coup se rallier derrière votre régime ?
C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que l'héroïsme de la police et des pompiers fasse oublier les violences policières par ailleurs.
C'était un discours qu'on entendait déjà à l'époque et qui disait aussi, écoutez, pendant la Seconde Guerre mondiale ou la guerre de Corée du Vietnam, on nous a demandé, nous, pareil, les Afro-Américains, de soutenir le régime. Et qu'est-ce qu'on y a gagné ? Rien. It's a hard conversation to have. We lost kids, moms, and dads. People ready to fight for the flag.
The Proud, c'est le titre de ce morceau de Talib Kweli. Il rappe, pas évident de parler avec les enfants, les pères et les mères, prêts à se battre pour le drapeau. Mais putain, l'Amérique tue aussi des innocents. Battons-nous, mais pour la vérité et la liberté.
Quelques mois avant le 11 septembre, il y avait un fait divers qui avait beaucoup marqué à New York, qui avait été la mort d'un immigré guinéen qui s'appelait Amadou Diallo, qui avait été abattu de 41 balles par la police.
Et, 41 balles.
41 balles par la police. Et donc, notamment, Bruce Springsteen, justement, avait composé un morceau qui s'appelait 41 Shots. Et sa figure-là, justement, a souvent été après accolée à celle des victimes du 11 septembre par des musiciens de hip-hop. Alors, par exemple, il y a un très beau morceau de Talib Kweli qui s'appelle The Proud, où il y a plusieurs couplets, notamment où il y a un couplet qui parle du cas de Diallo, et après il y a un couplet qui parle du 11 septembre en disant en gros comment est-ce que je peux expliquer à mon fils que les policiers sont censés être des héros quand ils voient ça aussi.
Des disques sont sortis le jour même du 11 septembre 2001. Blueprint du rappeur Jay-Z, et Love and Theft de Bob Dylan, aujourd'hui prix Nobel de la paix.
Ce qui est intéressant, c'est que à première vue, ça paraît un album hors du temps. Voilà, c'est un album de blues folk avec un peu de notamment des passages un peu ragtime. Voilà, ça paraît vraiment un album de Dylan enraciné dans une très très longue tradition musicale américaine. C'est-à-dire pas du tout comparable à ces grandes œuvres qui semblaient pour le coup très très branchées sur l'époque des années milieu des années 60. Mais que très vite, les gens qui l'écoutent, ils y trouvent des images d'apocalypse, des images du feu qui descend du ciel, des bâtiments qui s'effondrent ou des bâtiments qui sont anéantis dans un glissement de terrain, qui leur semblent refléter un peu ce climat de fin du monde. Notamment, Dylan à l'époque avait été comparé à la Pythie de Delphes, voilà, qui produisait ces oracles d'un peu mystérieux. Et finalement, dans le cas du 11 septembre, il n'est pas tellement là comme chanteur protestataire que, effectivement, comme un espèce de peintre de la dévastation. Il avait une phrase très belle au moment de la sortie, peu après la sortie de l'album, il avait dit à un intervieweur : vous parlez à quelqu'un qui a l'impression de se balader dans les ruines de Pompéi en permanence.
L'une des chansons de Dylan qui va devenir l'un des titres emblématiques du 11 septembre, c'est ce morceau aussi, High Water for Charlie Patton. Rising, rising night and day. All the gold and silver being storing away. Victor Turner looking east and west from the dark room of his mind. He made your Kansas City 12th Street and Vine. Nothing standing there. I want a hill.
Donc un morceau comme son titre l'indique, qui est un hommage au bluesman Charlie Patton, donc qui était un bluesman de la fin des années 1920, et qui notamment à l'époque avait composé un morceau sur une gigantesque et très meurtrière crue dans le Mississippi. Et donc Dylan se réapproprie les motifs en quelque sorte de ce morceau pour les faire sien. Et ces motifs-là, justement, ces motifs de dévastation, de catastrophe, d'engloutissement, fonctionnent aussi pour décrire le 11 septembre. Donc c'est en ça que ce morceau devient un grand morceau du 11 septembre. Et ce qui est encore pour le coup intéressant dans la façon dont les sens des morceaux évoluent, c'est que quelques années après, ce morceau-là va encore reprendre un nouveau sens lors de la deuxième grande catastrophe du mandat Bush, qui est de la présidence Bush, qui est l'ouragan Katrina.
Certains ont pris Dylan pour un prophète, et il y a des pochettes de disques aussi qui ont été vues comme annonciatrices des attentats. Dans le genre, l'une des histoires les plus célèbres, C'est celle d'un groupe de hip-hop new-yorkais qui s'appelle The Coop. Le 11 septembre devait paraître leur nouvel album avec la pochette suivante, le World Trade Center, qui explose, avec un détonateur qui ressemblait à un ampli. Le disque apparut avec une autre image, évidemment. D'autres pochettes d'albums ont provoqué des théories rocambolesques. Il y a celle de Breakfast in America, disque du groupe Supertramp, paru en 1979, et où figure ce morceau. À l'image, une serveuse joufflue, tout sourire, qui brandit un plateau où est posé un verre de jus d'orange. Au loin, l'île de Manhattan et les deux tours qui en sont le symbole.
World Trade Center, dès sa naissance dans les années 70, s'était imposé comme figure symbolique de l'horizon de New York et donc figurait sur très nombreuses pochettes de disques. Il y a plein de pochettes de disques de l'époque où on voit les deux tours. Et une des plus célèbres, c'est celle de Breakfast in America de Supertramp. Et alors, quelques jours après les attentats, il y a eu des théories totalement rocambolesques qui ont commencé à circuler, notamment sur Internet, qui à l'époque quand même commençait déjà à être pas mal un lieu de débat, on va dire, en tout genre. Et qui disait, bah regardez la pochette de Supertramp, la serveuse tient un verre de jus d'orange, mais alors ça ressemble à une boule de feu. Enfin, voilà, qui disait en gros, on a l'impression de voir le scénario des attentats dans le graphisme de cette pochette.
Si New York et ses tours se retrouvent sur plein de pochettes de disques, c'est parce que c'est l'une des capitales de la musique mondiale. La ville a été le creuset du disco, du punk, de la culture hip-hop. Et lorsque deux avions frappent le World Trade Center le 11 septembre 2001, c'est aussi l'épicentre musical de la ville qui est frappé. C'est dans ce quartier, le Bas de Manhattan, que se développait une nouvelle scène rock. Mais c'est la chanson d'un Canadien qui va devenir l'un des hymnes de la ville, Hallelujah, de Leonard Cohen. Mais ce n'est pas la version de Leonard Cohen qui s'est imposée à ce moment-là, c'est la reprise qu'en a faite ce garçon, Jeff Buckley. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. C'est un morceau qui parle de, on va dire, de désir et de sacré, mais qui ne parle pas du tout, qui n'a aucun rapport avec, de près ou de loin, a priori, avec le terrorisme, mais qui était devenu important au moment du 11 septembre parce que des programmateurs de la chaîne, je crois que c'était MTV, avaient fait une sorte de montage d'images de New York dans les jours qui avaient suivi les attentats avec Alléluia de Buckley en bande-son. Et donc le morceau voilà, était devenu une espèce de baume un peu symbolique à cette époque.
Et avec un caractère sacré.
Avec un caractère évidemment sacré. D'autant plus sacré par ailleurs que c'est la voix d'un mort qui parle puisque Jeff Buckley était mort noyé en 1997. Voilà, donc il parle en quelque sorte d'outre-tombe. Well, there was a time when you let me know what's really going on below. But now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah, hallelujah. Ce morceau qui avait déjà acquis une charge symbolique très forte en période de deuil national après des attentats au moment du 11 septembre, on l'a retrouvé de manière peut-être un peu plus diffuse, mais après le 13 novembre, où le morceau a beaucoup été remis en avant. Et là, ça renvoyait encore aussi à quelque chose de plus, c'était que Buckley avait donné un de ses concerts les plus célèbres, sans doute le concert le plus célèbre qu'il donnait en France, au Bataclan, justement, au printemps 95. Voilà, qui était un peu devenu un concert symbolique de la mythologie Buckley en France, sachant que sa musique avait été très très bien accueillie en France. Enfin, c'était vraiment un des pays où il était devenu culte très vite. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, enfin ironique, c'est qu'il y a une phrase très symbolique dans le morceau de Cohen où il dit « But you don't care for music, do you ?» La musique ne te préoccupe pas vraiment, n'est-ce pas ? Alors qu'en fait, effectivement, là, ce que montre en tout cas le destin de ce morceau, puisqu'il a d'abord été repris par d'autres musiciens, puis par Buckley, et puis ensuite tous les usages dont on vient de parler après le 11 septembre et le 13 novembre, bah, c'est justement, il montre l'inverse, c'est-à-dire il montre comment la musique préoccupe les gens et comment les gens s'en emparent pour en faire autre chose.
Ça fait 20 ans aujourd'hui que l'Amérique a été attaquée sur son sol par des djihadistes du mouvement terroriste Al-Qaïda. Et cette semaine, s'est ouvert le procès des terroristes du 13 novembre 2015. Dans les deux cas, comment écrire des textes sur un événement aussi immense ? Neil Young ou Springsteen s'en sont sentis le devoir, mais il faut reconnaître que ce n'est pas leur meilleure chanson. Et puis il y a des textes magnifiques dont on pense qu'ils parlent précisément des attentats. C'est ce que j'ai cru quand j'ai entendu cette chanson parue sur le quatrième album de Louise Attaque en 2016. Elle s'intitule L'insouciance, mais Gaëtan Roussel, qui en est l'interprète, m'a dit qu'il l'avait écrite avant les attentats. Gaëtan Roussel, vous l'entendrez au téléphone dans quelques instants.
À l'antenne aujourd'hui, j'entends que l'on meurt, que l'on vit, et l'insouciance qui nous fuit, l'insouciance qui n'a pas de prix. Ressentir petit à petit, plonger sans trouver d'abri, et l'insouciance qui me fuit. Voilà le train qui me conduit, les images et le bruit, la douleur et l'ennui, et l'insouciance qui me fuit. Voilà le vide qui me remplit.
Ce qui est important dans cette chanson, c'est le choix du mot. À partir du moment où je choisis le terme de l'insouciance, ce que j'ai essayé de dire, c'est que c'est elle qui s'en va. C'est pas le narrateur qui la fuit, c'est elle qui s'en va. Et donc, évidemment, qu'avec ces événements terribles, c'est eux qui, dans cette chanson, prenaient toute la place.
Comment vous l'avez vécu, ça? Le fait que cet événement finisse par phagocyter la chanson?
Moi qui ne suis pas coutumier de forme documentaire, je voulais pas qu'on ait eu l'impression que je voulais le faire et que finalement je le faisais en passant. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui n'est pas possible du tout. Du tout, du tout, du tout. Et je sais pas si on arriverait. En tout cas, moi je sais que je n'y arriverais pas à trouver les mots qui seraient justes. Voilà. Cette chanson est née de cette ossature de violon, cette ritournelle comme vous dites, parce que ce sont toujours les mêmes accords qui avancent, il n'y a pas de refrain dans cette chanson.
Je ne me ressemble plus aujourd'hui, mais si car c'est moi tous ces plis, et l'insouciance qui me fuit. L'insouciance qui n'a pas de prix. Qui a dit que c'est long la vie? Perdre la page de ses propres nuits. Et l'insouciance qui me fuit. Voilà le vide qui me remplit. Ressentir petit à petit. Plonger sans trouver d'abri. Et l'insouciance qui me fuit. Sentir son cœur qui s'amoindrit.
Est-ce que quand vous avez interprété ce morceau, L'insouciance, sur scène, est-ce que c'était un moment particulier de concert ou pas?
Oui, là, le temps se suspendait. Comme vous savez, dans les concerts, quand le silence des gens face à vous fait encore plus de bruit que quand ils crient très fort. Ça, c'est assourdissant, le silence. C'est comme ça qu'on le vivait, il y avait quelque chose qui suspendait, qui était un moment important du tour de chant, comme on le disait à l'époque.
Cette date du 11 septembre ne renvoie pas qu'aux attentats qui ont frappé les États-Unis. Cette date a aussi marqué l'histoire du Chili. Le 11 septembre 1973, un coup d'État mené par Augusto Pinochet renversait le président socialiste Salvador Allende. Allende s'est suicidé pendant le siège du Palais de la Moneda. À partir de là, une chanson écrite par Sergio Ortega s'est imposée comme la bande-son de la résistance.
El pueblo unido jamás será vencido.
Le peuple uni ne sera jamais vaincu. El pueblo unido jamás será vencido, scandé sur la place de la dignité de Santiago, le 11 septembre 2019, c'est le dernier hymne de Popenco. Pour écrire ce récit, l'ouvrage du journaliste Jean-Marie Potier fut une bible, je vous redonne le titre, c'est Ground Zero, une histoire musicale du 11 septembre, paru chez Le Mot et le Reste et chez le même éditeur. Jean-Marie Potier vient de publier Alternative Nation, la scène indépendante américaine 1979-2001. Concernant le 11 septembre, je vous conseille l'écoute de 11 septembre, l'enquête, remarquable podcast de Grégory Philips que vous pouvez écouter sur le site de France Inter. Quant au dernier album de Gaëtan Roussel, il s'intitule « Est-ce que tu sais ?»
France Inter, Pop & Co, Rebecca Manzoni.
Allô ?
Au bout du fil, la personne qui décide du prochain disque dans Pop & Co.
Attends, je vais juste à l'endroit parce que je pense que tu vois très bien là. Attends.
Plusieurs pas plus tard, sur une crête des Pyrénées, l'autrice, compositrice, interprète Yeli Yeli choisit la chanson d'un ou d'une collègue parmi la centaine diffusée en ce moment sur Inter.
J'ai choisi Joan Tata Constantino avec son titre Tata. Parce que j'aime bien son style qui mélange bouzouki et autotune. Ça fonctionne à merveille parce qu'on sent qu'il a une démarche hyper authentique. Voilà, c'est très chill, très joli.
Avant d'entrer dans les coulisses d'une de ses chansons à elle, Yeli Yeli, voici donc son nouveau titre à lui, Joan Papa Constantino. De l'autotune pour camper le personnage qu'il s'est inventé, plus du bouzouki pour rappel de ses origines grecques, plus du reggaeton égal Tata, Joan Papa Constantino, dans Pop & Co.
Tu m'as fait douter, Tata, je recompte encore sur les doigts, j'ai trop travaillé, Tata. Tu me diras si j'ai le droit. Je veux rigoler, Tata. Avec ces histoires, on peut pas. Tu m'as fait douter, Tata. Ça fait peur chaque fois qu'on se voit. On s'est embrouillé, cassé les objets. J'ai tout mélangé. T'as les yeux mouillés. On s'est desserré, Tata. Quand je les regarde, ça se voit. Je crois que c'est gâché.
Je suis désolée, j'étais en retard finalement.
Mais en fait, non.
Bah ouais.
Bah super.
J'ai tout de suite vu ses lèvres rouges vifs, son pantalon bleu électrique rentrer dans des Santiago. Depuis 5 ans, elle s'est choisie Yali Yali pour nom de scène. Et pour résumer son univers d'ado grandi en banlieue parisienne dans les années 90, elle dit...
Je sais pas, les yeux rêvés vers l'Amérique, les Simpsons à la télé, l'œil du cyclone sur Canal+, le hip-hop qui arrive... comme un tank qui va révolutionner nos esprits. Donc il y avait... C'est tout ça réuni.
Et puis il y a la Kabylie, où est née la mère de Yali Yali. Yali, ça veut dire ma fille en kabyle. C'est son grand-père maternel qui l'appelait comme ça. Parce qu'elle est la seule fille parmi 3 garçons. Et elle a doublé le mot pour le plaisir du rebond. Yali Yali. Dans le civil, elle s'appelle Émilie Anak. N'empêche, il y avait du kabyle à la maison, et souvent dans les chansons.
Dans l'habitacle de la voiture et les cassettes stéréo, j'avais l'impression que c'était juste à moi, quoi. Ce qui est complètement faux, mais et c'était quelque chose d'assez fascinant, parce que je comprenais pas bien les paroles, ma mère me les expliquait par bribes, et du coup c'était comme un peu comme des hiéroglyphes hyper poétiques. Et donc voilà, les origines, ça passait par la musique et la nourriture évidemment. Et puis quelques insultes que ma mère sortait quand on l'énervait trop, genre Ariol. Elle disait toujours Ariol, ce qui signifie Anne, à mes grands frères quand ils faisaient des bêtises. Voilà. En fait, le premier album Yali Yali, c'est une Algérie fantasmée. J'avais pas mis les pieds en Algérie. Et pour le deuxième, je me suis dit, ok, il est temps de... d'aller dans le dur, et donc j'ai fait un voyage avec mon grand frère là-bas. Et il y avait cette idée très forte aussi de... on peut appréhender l'avenir bien seulement si on est bien conscient de notre passé et de notre histoire. Pour savoir où tu vas, tu dois savoir d'où tu viens, en gros. Et donc je me baladais dans les rues d'Alger les premiers jours comme un petit fennec fou, hyper excitée, heureuse et... En fait, je pense que j'avais une vision hyper passéiste, évidemment, liée au fait que j'ai eu accès à cette culture via des musiques d'antan et tout. Et c'est pas une déception, mais c'est une grande surprise et assez géniale, en fait, de rencontrer justement de jeunes rappeurs, des graffeurs, un truc hyper contemporain, fort, puissant et inspirant, la jeunesse. Ouais, ce bouillonnement, quoi. Et ça, c'était une grande et très belle surprise, en fait.
Yali Yali a conçu son nouvel album avec Pierce Faccini et DJ Chloé. Et ce matin, dans Pop & Co, on entre au cœur de ce morceau. Le titre, c'est Tassous Me.
Tandis que je frappe le sol, je frappe le ciel de ma voix. Tassous Me, Tassous Me, Tassous Me.
Tassous Me, Tassous Me.
ça rassemble en fait les gens, la musique. Ça me rapproche des gens qui viennent me voir et qui me disent, j'ai des témoignages très forts, quoi, de harkis, de français qui ont fait la guerre d'Algérie, de berbères, de personnes immigrées en France, et du coup ça délie les langues, quoi. Et je trouve ça hyper beau.
Quand vous dites ça délie les langues, est-ce que ça a délié les langues dans votre famille ?
Alors pour le coup, j'étais assez pudique par rapport à ça, et je crois que j'ai pas fait écouter ces morceaux à mes parents jusqu'à quasiment à la sortie du premier album, parce que j'avais peur de leur réaction, quoi.
Pourquoi ?
Parce que j'avais l'impression de, bah pour le coup, ouais, mettre à nu une forme d'intimité familiale. Surtout le single du premier album qui s'appelle Yema, où je parle à ma mère, en fait. Et ouais, ça, c'était quelque chose, quoi. Et je me souviens que je lui ai envoyé le morceau par email 2-3 jours avant la sortie. Elle l'a très bien pris et accepté, mais c'était pas non plus l'effusion, quoi.
Qu'est-ce qu'elle dit, cette chanson Yema ?
Oh, c'est une déclaration d'amour.
Etta Sousmi, titre du morceau qu'on écoute aujourd'hui, ça veut dire le silence en kabyle. Yeli Yeli est parti de ce proverbe. Le silence embellit la bouche.
C'est, ce que j'aime bien avec ce rythme, c'est qu'il est, il est d'une simplicité folle, mais il tient tout. Enfin, c'est vraiment en plus la même chose du début à la fin, quoi. Il n'y a pas énormément de variations. Avec Pierce Faccini, qui a composé le morceau avec Chloé et moi. Donc, au début, on se disait, mais c'est quand même très très simple, quoi. En fait, c'est peut-être les choses les plus difficiles à faire, les choses simples, simplissimes comme ça, qui tiennent, quoi. Donc, on a décidé de garder ce rythme tout nu. C'est comme la guitare, si je peux enchaîner sur la guitare.
Ouais.
Donc il y a quelques variations, mais c'est pas non plus foufou, et on reste sur quelque chose qui trace comme ça, qui est très pop, un peu catchy. Et puis à un moment, il m'a dit, écoute, il faut qu'on introduise des choses un petit peu plus bizarres dans ce morceau, en fait, pour lui donner du mystère. Et c'est là qu'intervient Chloé.
DJ Chloé,
avec ses trucs un peu bizarres, quoi. Et la musique de Chloé, elle appelle toujours ça, quoi. Il y a un truc qui te fait un peu voyager dans l'espace. Et je trouve que c'est ce qu'elle apporte au morceau. C'est comme pour contrecarrer cet aspect simplissime du rythme et de la guitare. T'as ces éléments éthérés et vaporeux qui me donnent l'impression à moi, quand je la chante, que je flotte, en fait. C'est un truc qui flotte. D'ailleurs, au début, on a toujours des titres pour travailler qui sont pas définitifs pour les chansons. Et le morceau s'appelait banalement Désert. On est dans le désert, on marche comme ça, on avance. Et Chloé, elle nous fait monter dans l'espace, quoi.
Et puis il y a la voix.
Il monte le soleil. Il monte comme un lion qui se traîne. T'as ce semé.
Je sais pas trop quoi dire là-dessus. Je suis désolée. C'est hyper difficile de parler de ça, quoi, non ? Là, on est à poil, quoi. Bah, j'ai envie de l'habiller, quoi, de lui mettre une couverture.
T'as ce semé, c'était animé.
L'inspiration, elle est venue aussi avec cette langue-là ?
Ouais, complètement. Ça a comme déverrouillé des choses dans ma façon de chanter, en fait. Mais je sais que maintenant, je peux pousser ma voix à des endroits dans lesquels elle s'était jamais trouvée avant, en fait. Et je sais que c'est depuis que je chante en kabyle. C'est hyper désinhibant, en fait.
T'as ce semé, ce t'yanyemé.
En fait, j'ai toujours pensé, quand je chantais en kabyle avec un fort accent, à l'accent berbère de mon grand-père quand il nous parlait en français, qui était hyper rocailleux, et c'était parfois difficile à comprendre pour les gens qui le connaissaient pas, mais en même temps, son accent, il nous racontait des histoires, en fait. Il nous racontait son exil, ses montagnes, et je trouve que les accents, c'est beau, en fait, donc mon accent et il raconte mon histoire. Et j'en ris avec plaisir parce qu'il est, je pense qu'il est vraiment absurde, mais il est là. Il raconte l'histoire d'une fille musicienne d'origine berbère qui vient de Maison Alfort.
Pour se présenter elle et son disque, Yeli Yeli a écrit, je cite, « Moitié kabyle, moitié tchèque, 100% Maison Alfort, 200% queer ».
Je pense que j'avais envie d'insister sur ce point. Et c'est un milieu qui me rassure beaucoup et qui, dans lequel je me sens vraiment bien. Même si ça ne transparaît pas nécessairement dans les paroles de cet album, en fait. Je veux rien cacher de la personne que je suis, quoi.
Violence et mécanique, c'est le titre du nouvel album de Yeli Yeli. Le disque est publié par le label Crybaby. Et Yeli Yeli sera en concert au plan à Ris-Orangis le 25 septembre. Koyen Guyen a réalisé cette émission avec Florian Doréminy ce matin. Pop & Co est préparé par Ilinka Negulesco et Jean-Baptiste Audibert s'occupe de la programmation musicale. La semaine prochaine, Pop & Co et Pop & Hardy, comme Françoise, avec Françoise Hardy elle-même, Gabriel Yared et Clara Luciani. À samedi!